RFI, 8h30 à Paris et Khartoum, 7h30 à Libreville.
Puis matin.
Bonjour Vincent Dublange.
Bonjour Andréane, bonjour tout le monde.
À la une de ce journal, l'ONU qui dénonce avec force l'attaque d'un convoi humanitaire au Soudan et qui publie de nouveaux chiffres sur le nombre de réfugiés.
Oui, la situation humanitaire est catastrophique après plus de 2 ans de guerre pour les 4 millions de Soudanaises et Soudanais accueillis en Égypte, au Tchad, en Éthiopie, en Centrafrique et au Soudan du Sud. On va faire le point dans un instant. Une vie impossible aussi en Libye pour les exilés, les migrants subsahariens retenus de force dans des centres de garde-côtes financés par l'Europe. Témoignage d'un chercheur qui documente leurs exactions. Dans ce journal, l'appel des scolaires du Niger au dialogue social entre autorités et enseignants et l'immense marché aux moutons du nord d'Abidjan qui bêle très fort en ce moment, à moins de 48 heures, de la Tabaski. Notre dossier sur l'importance au Sénégal, mais de manière générale dans le cinéma, du court-métrage dans le lancement d'une carrière.
Les mois passent et la guerre ne semble pouvoir trouver aucune issue.
Le Soudan est toujours davantage coupé en deux. L'Ouest et l'Est et le Sud-Est sont contrôlés par les paramilitaires des FSR. L'Ouest et le Sud-Ouest par l'armée régulière et ses alliés. Des millions de personnes ont fui chez elles. Beaucoup sont déplacés internes dans leur propre pays. Une partie a fui dans les pays voisins. L'ONU a d'ailleurs communiqué ses derniers chiffres hier. La barre des 4 millions de réfugiés est franchie, Alexandra Branjon.
Premier pays à accueillir ces réfugiés soudanais, l'Égypte, avec 1,5 million de Soudanais sur son territoire, installés principalement dans des quartiers pauvres en périphérie de la capitale, Le Caire. Un choix en raison des liens culturels, langue, religion avec le Soudan. Vient ensuite le Soudan du Sud qui accueille plus d'1,1 million de réfugiés en provenance du Soudan, mais dont la plupart sont des Sud-Soudanais qui sont repartis dans leur pays. Le Tchad paye également un lourd tribut. Depuis le début de ce conflit, le pays a accueilli plus de 850 000 Soudanais installés principalement dans des camps le long de la frontière et qui viennent s'ajouter aux quelques 400 000 réfugiés soudanais déjà présents dans l'est du Tchad depuis le début du conflit au Darfour dans les années 2000. Une pression humanitaire exercée sur l'est du Tchad qui est devenue insoutenable selon le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Enfin, la Libye, l'Éthiopie et la Centrafrique contribuent également à l'effort. Ils accueillent plus de 370 000 réfugiés soudanais.
Alexandra Branjon.
Toujours au Soudan, Antonio Guterres demande une enquête urgente après l'attaque d'un convoi humanitaire.
Oui, c'était lundi. Le secrétaire général de l'ONU condamne dans les termes les plus forts cette attaque. Le convoi en question patientait à environ 80 km d'El Fasher au Darfour Nord. Une partie de la quinzaine de camions a été incendiée. Il y a 5 morts. Les véhicules étaient clairement identifiés, Programme alimentaire mondial ou UNICEF, l'armée régulière soudanaise et les paramilitaires se rejettent la responsabilité.
Ukraine, droit de douane américain, Libye, les sujets ne manquaient pas hier soir entre fromage et dessert lors du dîner à Rome entre le président français et la chef du gouvernement italien.
On n'a pas de précision, Andréane, ce matin sur le contenu des échanges, pas de conférence de presse de fin de visite, mais nul doute que l'influence russe en Libye et le rôle même du pays nord-africain dans la gestion de l'immigration vers l'Europe a été abordé entre les deux dirigeants. On sait notamment que les gardes du côte libyens sont financés par l'Union européenne. On sait aussi qu'ils gèrent des centres de rétention. D'après les spécialistes, 20 000 exilés africains notamment y sont entassés dans des conditions indignes. Ouda Ibrahim a interrogé un chercheur qui documente depuis maintenant longtemps les exactions des services libyens.
Ahmad Lamloum a recueilli les témoignages de migrants interceptés en mer et dans le désert par les gardes frontières. Il visite régulièrement les centres de rétention. Ce chercheur, qui préside le centre d'études de Benghazi sur les migrants et les réfugiés, dénonce une corruption généralisée au sein des services sécuritaires.
L'ensemble des appareils sécuritaires ont compris que l'immigration leur ramène beaucoup d'argent. Ces appareils sont en concurrence entre eux, par exemple pour la gestion des migrants. Il y a au moins 6 appareils sécuritaires qui interviennent dans ce dossier.
Ahmad Lamloum raconte les confiscations des téléphones portables et de l'argent des migrants dès qu'ils sont interceptés en mer par les gardes-côtes. alors que les navires utilisés sont financés par l'Union européenne. Les exactions et les vols des migrants en mer sont devenus la norme, explique le chercheur, et les autorités libyennes et européennes ferment les yeux.
Le ministre de l'Intérieur à Tripoli est lui-même impliqué dans cette affaire. Il sait très bien ce qu'il se passe dans les centres de rétention qu'il est censé gérer. C'est lui le premier responsable des gardes-côtes libyens et des gardes-frontières. C'est une première qu'un ministère de l'Intérieur intervienne pour garder les frontières alors que c'est du ressort de l'armée.
Malgré ces exactions, selon l'OIM, le nombre de migrants en Libye a augmenté de 4% depuis le début de l'année.
Ouda Ibrahim.
Au Mali, un couvre-feu dans toute la région de Ségou.
Oui, pour 30 jours reconductibles, couvre-feu entre 21h et 6h du matin. Seuls les véhicules militaires et les ambulances sont autorisés à circuler. La décision a été prise par le gouvernorat dans un contexte de multiplication des attaques djihadistes. Au Mali, un couvre-feu était déjà en vigueur dans la région de Tombouctou également depuis un an et demi. Il avait été progressivement allégé, mais il a été ramené à ces mêmes horaires dont on vient de parler pour la région de Ségou, 21h, 6h, et ce après les attaques du JNIM lundi à Tombouctou, dont vous lisez d'ailleurs les derniers détails sur RFI.fr.
Au Niger, des enseignants en grève toute la semaine.
C'est le troisième mouvement du même genre en un mois, et l'inquiétude est forte à l'approche de la fin de l'année académique et de la période des examens. Inquiétude chez les élèves, l'Union des scolaires nigériens tire la sonnette d'alarme et appelle le gouvernement nigérien à renouer le dialogue pour sauver la fin de l'année scolaire. Magali Lagrange.
Il ne peut y avoir de souveraineté sans une jeunesse bien formée, écrit dans son communiqué l'Union des scolaires nigériens, inquiète de voir des salles de classe désertées. Pour la troisième fois en un mois, la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation, qui rassemble une trentaine de structures, a lancé une grève cette semaine. Un climat de paralysie générale, selon l'USN, qui expose dangereusement l'année scolaire à l'approche de la période des examens et des évaluations. Le syndicat des élèves et étudiants demande donc au ministère concerné de renouer le dialogue. Entre le gouvernement et les principaux syndicats d'enseignants, les discussions sont pour l'instant à l'arrêt. Pour la dynamique des syndicats de l'éducation, c'est un bras de fer qui est engagé. Elle entend accentuer la pression et maintient ses revendications, embauche des enseignants contractuels dans la fonction publique et paiement de rappel de salaire. Des engagements qu'elle reproche au gouvernement d'avoir pris en décembre sans les avoir tenus. L'Union des scolaires nigériens demande aussi la mise en place d'un comité permanent de dialogue pour éviter de telles crises et dénonce la fracture scolaire qui s'installe entre les élèves des secteurs publics et privés.
Et les détails signés Magali Lagrange.
Une fracture qui s'installe entre pays à l'orée de la Tabaski.
Le Tchad, le Mali, le Niger vont compter sur leur solide cheptel de moutons pour la fête musulmane du sacrifice. Mais il y a de fortes inquiétudes ailleurs. Le roi du Maroc demande à ces sujets de renoncer cette année à égorger le mouton. Le Sénégal comptera lui sur les moutons venus de Mauritanie, mais seront-ils suffisants? On va tout vous dire, en tout cas essayer de décrypter. Ce sera notre dossier du journal de 7h temps universel avec le service économie des RFI.
Là tout de suite, on fait étape en Côte d'Ivoire. Vincent, les besoins sont estimés à 160 000 moutons pour la Tabaski.
Et dans la capitale économique, la foire ouvre ses portes aujourd'hui au parc à bétail d'Anyama, infrastructure géante ouverte l'an dernier dans le nord d'Abidjan. C'est quand même, Andréane, l'équivalent de 300 terrains de foot. Et au milieu de ce terrain, Benoît Almeras.
Mohamed Kandé est imam dans une mosquée d'Ebimpe, à 2 km du parc d'Anyama. Objectif de sa journée, trouver un beau sacrifice.
Je cherche un mouton qui est bien présentable, parce que le mouton de l'imam, le jour de la fête, on expose le mouton de l'imam. C'est ce qu'on va immoler.
Ça doit être un très beau mouton, c'est ça ?
Très beau mouton, bien bâti, bien vraiment en forme.
Il y a l'embarras du choix, des dizaines de troupeaux sont parqués dans les enclos boueux, et les négociations entre les bergers et les clients ont de quoi rendre chèvre.
Je vois 160 là. Si moi j'ai ça à 160 là, même 140 là.
Pour un mouton, il faut compter autour de 150 000 francs CFA, 230 euros. Les vendeurs ont le temps. Certains sont venus du Nigeria à 2000 km, une semaine de voyage en déchargeant des bêtes tout au long du chemin. L'occasion de pratiquer son anglais de vache espagnole.
Is it good business for you, like to come here?
It's good for me.
D'autres arrivent du Burkina, du Togo, du Bénin. Adama est malien. Ses fournisseurs ont fait fuiter des moutons du Niger, alors que Niamey a interdit les exportations de bétail.
Les animaux à la frontière, les gars déchargent et puis trouvent la manière pour rentrer, traverser la frontière. Donc ils viennent charger au Bénin. On peut dire que les 70% viennent de Niger actuellement.
Plus de 140 000 moutons sont déjà arrivés à Abidjan pour la Tabaski. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Radio France Internationale, merci de votre fidélité sur le 92 FM à Dakar au Sénégal. La coordination des associations de presse interpelle les autorités. Il est urgent, dit-elle, de prendre des mesures pour la presse ou à tout le moins de commencer à se parler pour réfléchir à des palliatifs aux difficultés financières rencontrées par le secteur, et notamment depuis le gel des contrats publicitaires en mai dernier. Ibrahima Lissa Faye préside l'association des éditeurs de la presse en ligne au Sénégal. Il signe une lettre ouverte au président Diomaye Faye. On l'écoute.
Il faut tirer la sonnette d'alarme, mais surtout rappeler aux autorités qu'il faut quand même des mesures correctives par rapport à celles qui ont été prises dès le départ, à savoir le gel des contrats publicitaires, le gel de tous les paiements y afférents. Et donc, nous espérons que les autorités vont comprendre cela. Et déjà, il y a des concertations qui sont prévues la semaine après la Tabaski. Et j'espère qu'il y aura des discussions franches où la presse va mettre sur la table ses préoccupations, ses besoins, les perspectives, et l'État va tenter d'y apporter des solutions. Parce qu'il faut reconnaître que nous avions travaillé sur les assises nationales de la presse et les conclusions avaient été déposées depuis le 6 novembre 2024. Et jusque-là, il n'y a eu aucune discussion sur les conclusions de ces assises-là, mais également aussi, il n'y a eu aucune tentative de concertation ou de dialogue entre les acteurs et l'État du Sénégal.
Propos recueillis par Léa Lisa Westerhoff.
Le Sénégal, restons-y justement, ou du moins parlons-en dans le dossier de cette édition.
On est avec le comédien Tiernoba. Il joue dans un court-métrage qui vient tout juste d'être récompensé au Festival international de cinéma de Cannes dans le sud de la France. Son film, Monsieur Pioche, c'est un court-métrage qui a décroché le premier prix du Nikon Film Festival. Il est réalisé par Maxime Lorgerie. Ce court-métrage, il dénonce l'exploitation des enfants dans les mines. Guillaume Thibault a rencontré l'acteur sénégalais et vu le film percutant.
Salut mon jeune ami.
En 2 minutes 30, Monsieur Pioche met une gifle aux spectateurs, à tous ceux qui oublient comment sont construits nos outils de communication, explique Tiernoba.
Ça se passe dans une mine, on ne sait pas où, ça peut être au Congo, ça peut être en Australie, ça peut être un petit peu partout. C'est vraiment sur l'exploitation des enfants, des téléphones que nous utilisons aujourd'hui, tous les appareils que nous utilisons aujourd'hui. On est content de l'avoir, mais on ne sait pas qu'il y a eu des gamins qui ont travaillé pour nous permettre d'avoir ce téléphone-là. Tant que ça ne tape pas à notre porte, c'est pas un problème, c'est pas grave, c'est très très loin.
On ne peut pas réciter une leçon que l'on n'a jamais apprise, aime répéter Tiernoba. Une citation de son père Djibril Ba, ancien directeur de la RTS. Pour le comédien, le cinéma est une porte sur le monde, s'il est bien compris. Il cherche aujourd'hui à doubler en Wolof des films étrangers pour les rendre accessibles au Sénégal.
On est sur un projet, c'est de pouvoir faire du doublage dans l'autre sens. Que les gens qui sont au Sénégal, la mamie qui est au fin fond de Tambacounda, ait la possibilité de voir un documentaire qui a été fait au Tibet. Lorsque c'est doublé en Wolof, 100% de la population peut le comprendre et peut avoir accès à tout, à ce savoir.
Fort de la réussite de Monsieur Pioche, Tiernoba multiplie donc les projets. Pour les producteurs intéressés, le court-métrage sur l'exploitation des enfants est accessible sur toutes les plateformes.
Alors le Sénégal, paradis du court-métrage, peut-être pas encore, mais en tout cas c'est à Dakar que le collectif français Courtrajmé a ouvert en 2022 une école de cinéma. Quelle importance pour le court-métrage dans le cinéma? Écoutez Toumani Sangaré, le co-directeur.
L'outil du court-métrage pour nous est fondamental. Il existe depuis quelques années le festival Dakar Court, qui est devenu incontournable sur le continent aujourd'hui et qui réunit des courts-métrages d'un peu partout dans le monde. Très souvent, ça va être une vitrine pour ces réalisateurs. Je pense entre autres à Khadija Sow, qui, avec son court-métrage Une place dans l'avion, avait remporté beaucoup de prix. Il y a aussi également Angèle Diaban. Donc voilà, il y a principalement des femmes, et tant mieux. Le Sénégal s'illustre effectivement depuis peu à travers ses réalisateurs et ses réalisatrices. Ça valorise énormément le travail, le réalisateur, parce que en fait, il a un outil après de qualité à montrer avec d'éventuels futurs collaborateurs, producteurs, qui pourront se projeter dans son travail. Donc c'est essentiel pour un réalisateur d'avoir un court-métrage.
Des propos recueillis par Guillaume Thibault qui signe donc le dossier de cette édition.
Merci. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure.